Bonsoir, comment allez-vous en cette fin de pont? Ça, c'était un vrai pont. 4 jours, 4 arches et un joli sujet de conversation. Le Tucelpont est beaucoup plus riche que le mécanique « Tu vas bien » auquel on ne répond jamais vraiment. Essayez de demander « As-tu fait le pont ?» On vous répondra. « Mon boss, il m'avait dit « T'auras la Pentecôte ou l'Ascension ?» J'ai dit « L'Ascension ». Il m'a dit « Oui, puis je ne l'ai pas eu ». Alors j'y ai dit, puis mardi, je te donne pas le vendredi. Alors j'y ai fait comme ça, vous me l'aviez dit. Enfin bref, il me l'a fait à l'envers, j'ai pas eu le pont. T'auras la Pentecôte, il me fait. Ouais, mais c'est pas un pont. Déjà que le 1er mai, c'était un samedi, puis le 8 aussi, ça fait 3 ponts qu'on me carotte. Le pont est-il un dû? Non, c'est une petite acrobatie reliée le jeudi au samedi en enjambant le vendredi. Ceux qui font le pont ont conscience d'être des privilégiés et goûtent particulièrement ce cadeau. Et au fait, cadeau de qui? C'est quoi l'Ascension? Thomas Pesquet peut-être? Pourquoi le 13 mai alors? C'est pas toujours le 13 mai. En tout cas, c'est un truc qui monte l'Ascension, comme l'ascenseur. L'Ascension du Mont Ventoux. L'Ascension, c'est Jésus qui est monté. Bah, qui est monté où? Au ciel. Pourquoi faire? Je sais pas. Il est toujours pas redescendu, puis il y a personne qui s'inquiète. Bah si, c'est pour ça qu'on fait le pont, c'est pour le chercher. Ah, pourquoi qu'on nous le dit pas? Moi, ma mère, elle me l'a dit. Oh, ta rhum, elle est un peu drôle, non? Et il est monté comment? Tout droit. C'est pas un pont, alors?
Bonjour, je m'appelle Olivia, et j'aimerais savoir si la forme du pont de Millau a été dessinée par un artiste ou par un ingénieur. Merci, à bientôt.
Bonsoir, Olivia. Justement, Michel Virlogeux, vous êtes ingénieur, vous avez construit beaucoup de ponts, dont
le viaduc.
Voilà. Alors, vous pouvez lui répondre?
Alors, bien sûr. Mais avant de répondre, il faut expliquer que un pont, ça ne se conçoit pas en prenant une feuille de papier et avec un grand coup de crayon de génie. Un projet de pont, ça se fait par étapes, très progressivement. On commence par faire des esquisses, on commence par faire ce qu'on appelle des études préliminaires, puis on passe à des avant-projets, puis à des projets détaillés et on finit avec des études d'exécution. Donc c'est un processus extrêmement long. Et puis il y a en plus derrière, souvent, des problèmes administratifs. À un moment, il n'y a plus d'argent. À un moment, on ne veut plus le faire. À un moment, il y a des opposants. Donc ça prend beaucoup de temps. Pour donner une idée, le pont de Normandie, entre le moment où j'ai commencé à y travailler et le moment où il a été mis en service, il s'est passé 19 ans.
Ah, quand même.
Et pour le viaduc de Millau, 17. Donc, c'est pas quelque chose qui va si facile que ça. Donc, dans le cas du viaduc de Millau, donc je suis effectivement le concepteur de l'ouvrage parce que j'ai commencé à y travailler quand j'étais encore dans l'administration. Hein, on avait commencé à y travailler en 1987. Et la première chose qu'il a fallu faire, c'est chercher par où on allait faire passer l'autoroute. Ce qui n'a pas été facile. Et on a même mis, je crois, à peu près 4 ans pour faire le choix du tracé de l'autoroute. Parce que l'autoroute, elle passe au-dessus d'une vallée très profonde. On passe à presque 300 mètres au-dessus de la vallée. Et puis après, le projet a progressé. Pour des raisons politiques, le directeur des routes, qui était monsieur Christian Lhérite, a estimé qu'on avait peu de chances d'arriver à faire passer, dans le contexte politique de l'époque, un projet de l'administration, a décidé d'organiser une sorte de compétition d'idées. Et finalement, j'ai quitté l'administration pour faire partie d'une des 5 équipes en compétition avec un architecte, Lord Foster. Et donc, c'est là qu'on peut commencer à parler du travail relatif entre l'ingénieur et l'architecte. Alors, quand je dis l'ingénieur, attention, parce que il faut bien voir que dans un projet comme le viaduc de Millau, il y a peut-être une 50aine d'ingénieurs au total qui ont travaillé. Mais la conception, c'est bien effectivement moi qui l'ai assuré, même si beaucoup de choses ont été dans la conception de l'ouvrage, développé, travaillé, mis au point par d'autres ingénieurs. Alors en fait, la structure, l'organisation, la conception structurelle de l'ouvrage, elle était déjà faite quand Lord Foster, l'architecte, est venu. Mais il est absolument évident que l'architecte, il apporte des choses. Parce que autant je suis capable de voir, moi personnellement, quel type d'ouvrage il faut faire dans un site donné, parce que un ouvrage, il doit être adapté à son site. Il doit rentrer dans son site comme s'il avait toujours été là. Mais par contre, je ne suis pas capable, moi, d'arriver à travailler le détail des formes pour faire jouer les ombres et les lumières, pour faire tout un tas de choses. Et ça, et c'est un apport de Lord Foster. Alors, pour la petite histoire, comme il y a une compétition, je ne suis même pas certain que cette solution aurait été choisie s'il n'y avait pas eu Foster, parce qu'il y avait son nom qui intervenait, il y a la qualité du travail qu'il a fait, donc le pont de Millau est indissociable de l'architecte, de Lord Foster. Hein. Mais la structure était définie avant. Et Lord Foster, il est intervenu pour... par exemple, il voulait absolument que les piles donnent l'impression d'émerger du sol. Donc il a fallu travailler là-dessus. Il voulait que le tablier donne l'impression de pénétrer dans les collines de chaque côté. Ça nous a rendu les choses très compliquées. Mais on y est arrivé. Les extrémités du pont étaient conçues pour donner cette impression de pénétration dans la colline. Et puis, son équipe et lui, c'est surtout son équipe, il faut être bien clair, ont travaillé le détail des formes, et on a eu beaucoup d'allers-retours, puisqu'on a même, à un moment, été obligé de changer complètement les formes, parce que les résultats des études en soufflerie ne convenaient pas à la forme qu'on avait proposée. Donc, il a fallu tout remettre sur le chantier. Et au total, je crois que l'équipe de Foster a dû faire plus de 40 maquettes de la pile et du pylône qui surmontaient. Voilà. Donc, la structure vient normalement de l'ingénieur, parce que c'est l'ingénieur qui maîtrise le cheminement des forces. Et on a toujours convenu que Foster était l'architecte du pont et que j'étais le concepteur du pont.
Michel Virlogeux est ingénieur, consultant, concepteur de grands ponts. Donc, on lui doit le viaduc du Millau dont nous venons de parler, mais aussi le pont de l'île de Ré et aussi le grand pont d'Istanbul. Dans les petits bateaux, ce soir, vous avez demandé pourquoi il y avait des numéros au fond des verres si les hommes et les femmes préhistoriques dansaient. Et qui suis-je ? A tout simplement demandé Nina. Les petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Henri, j'ai 7 ans, je voudrais savoir quelle est la chanson qui représente la plus la France à l'étranger. Merci.
Daniel Balavoine, je me présente. Non, blague à part, Henri. C'est pas je me présente, je m'appelle Henri, j'imagine. Bertrand Dical, vous êtes spécialiste de la chanson, vous êtes journaliste, écrivain, chroniqueur à France Info. Vous avez écrit des livres sur la chanson française, donc vous savez bien quelle est la chanson qui représente le plus la France à l'étranger, je me demande bien.
Eh ben, c'est la même qu'en France, c'est la Marseillaise.
Ah bon ?
Évidemment, partout dans le monde, on connaît la Marseillaise. C'est d'ailleurs un des hymnes nationaux les plus connus dans le monde. C'est-à-dire que si vous demandez un Chinois ou un Ougandais quel est l'hymne national américain, souvent il ne le sait pas, même beaucoup de Français ne le savent pas. En revanche, la Marseillaise, bon, tout le monde voit bien, tout le monde sait, oui. Tout le monde connaît. Partout dans le monde, on connaît la Marseillaise.
Les Italiens la connaissent.
D'ailleurs. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'endroits, notamment en Italie, où la Marseillaise, on a presque oublié que c'était français. Et on a tellement bien oublié que c'était français que les supporters de certaines équipes de foot italiennes sont toujours très surpris et rigolent bien quand la France joue contre l'Italie. Parce que eux, ils se mettent à chanter l'hymne de leur équipe de foot, qui est la Marseillaise. Et pourquoi ? Parce que c'était l'hymne de la Révolution française. C'était donc l'hymne de Garibaldi. Garibaldi qui est un des grands combattants avec son corps de volontaires pour l'unité italienne dans les années 1850-1860. Et la tradition est restée en Italie de chanter la Marseillaise. On chante la Marseillaise en Amérique latine, on chante la Marseillaise en Australie et en Nouvelle-Zélande pour des raisons très complexes, historiques. Alors, la plupart des gens savent que c'est une chanson française, mais parfois ils ne le savent pas. Alors, si on parle de chansons commerciales, il y a des chansons qui sont extrêmement connues partout dans le monde. Si on prend par exemple « My Way », le grand standard de Frank Sinatra, c'est comme d'habitude, à l'origine, une chanson de Claude François. C'est une chanson française. Si on prend Autumn Leaves, c'est une chanson de Joseph Kosma, qui, pour être d'origine hongroise, n'en était pas moins français. C'est une chanson française, c'est Les Feuilles Mortes. Mais il y a une chanson que partout dans le monde, on connaît sous son titre français, c'est, excusez mon accent, La Vie en Rose. La Vie en Rose est une chanson qui est peut-être même plus jouée aux États-Unis qu'en France. C'est un grand standard américain. Et d'ailleurs, les Américains, quand on leur dit, vous savez, c'est une chanson française qui porte un titre français, ils disent, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Parce que pour un Américain, La Vie en Rose, c'est une chanson qu'on entend dès la maternelle, dès le jardin d'enfants. C'est une chanson à laquelle tous les Américains sont familiarisés.
La Vie en Rose, c'est Edith Piaf qui a écrit les paroles et la musique, et elle n'a pas pu signer la musique parce qu'elle n'était pas membre de la Société des auteurs-compositeurs à l'époque. Et finalement, personne n'a voulu lui prêter son nom, sauf son pianiste qui s'appelle Louis Guy. C'est donc lui qui a signé officiellement La Vie en Rose. Quant à Bertrand Dical, vous le retrouverez sur France Musique dans l'émission de Denisa Kershova. Et cet hiver, il a écrit un livre sur Serge Gainsbourg, édité chez Grunt.
Efface la peine et ma peau s'y plaît. Les jeunes filles en été se baignent.
La jetée de Laura Cahen, extrait de la playlist de France Inter, choisie pour vous par Jean-Baptiste Audibert.
Les petits bateaux sur France Inter.
Le dernier livre de Denis Marquet s'appelle « Aimer à l'infini », n'est-ce pas un beau titre, édité chez Flammarion.
Bonjour, je m'appelle Nina, j'ai 9 ans et ma question c'est qui suis-je ? Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Nina. Denis Marquet, voici une question courte mais pas forcément simple. Vous êtes philosophe, thérapeute, écrivain. Nos enfants sont des merveilles, c'est un merveilleux titre et c'est édité chez Nil. C'est un de vos livres.
Alors Lina, bien sûr, je ne t'ai jamais vue, j'ai juste entendu le son de ta voix quand tu as posé cette question. Donc je ne suis pas la personne qui va pouvoir te dire qui tu es. Mais ça, tu le sais déjà. Et si tu poses la question, c'est que tu as compris quelque chose. C'est que qui tu es n'est peut-être pas la même chose que ce que tu es et que les gens peuvent percevoir. Ce que tu es, c'est une petite fille, tu es blonde ou brune, tu as des yeux de telle ou telle couleur, tu as certaines qualités, tu as peut-être aussi ce que les gens appellent certains défauts. C'est des caractéristiques qui sont extérieures, qui apparaissent dans le regard des autres. Et si tu pensais que tu es seulement ça, eh bien, tu n'aurais jamais posé la question « qui suis-je ?». Donc, si tu poses cette question « qui suis-je ?», c'est que tu as conscience, et moi, je crois que cette conscience est tout à fait juste, que tu es plus, que tu es autre que ce qui apparaît sous le regard des autres. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que, moi qui te connais pas, eh bien, je peux te confirmer que, de mon point de vue, tu es bien autre et plus que ce que tu apparais aux yeux des autres. Et tous les gens qui t'aimeront vraiment, eh bien, ils en auront conscience de ça. Ils auront conscience que tu es un être unique qui dépasse toute apparence, qui est au-delà de toute apparence, qui est une forme de transcendance, comme on dit, par rapport à toute apparence, c'est-à-dire quelque chose de plus et de supérieur. Et ça, c'est important de toujours en garder la conscience, parce que c'est depuis cette conscience que tu pourras vivre vraiment une vie qui ressemble à qui tu es.
Finalement, on pourrait peut-être dire, si je comprends bien Denis Marquet, la réponse n'est pas « je suis une telle ou un tel », mais juste « je suis ».
Oui.
« Je suis », c'est déjà quand même énorme, « je suis ».
Je suis, c'est absolument tout. C'est pour ça qu'on peut parler de méditation, dans le sens où la méditation, c'est seulement être et ne rien ajouter au « je suis », au fait d'être. Ce qu'on cherche dans la méditation, c'est retrouver qui on est par-delà tout ce qu'on est, c'est-à-dire tous les attributs qu'on peut se donner, je suis ceci, je suis cela. Mais derrière, il y a toujours ce « je suis » et le « je suis » est une expérience extrêmement forte et extrêmement profonde.
Merci à Denis Marquet pour cette réponse simple mais un petit peu compliquée en même temps. Vous pouvez la réécouter sur cette réponse sur franceinter.fr à la page des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 7 ans et je voudrais savoir est-ce que les hommes préhistoriques dansaient et qui a inventé la danse ? Merci, au revoir.
Merci Jeanne pour cette question. Les hommes préhistoriques, c'est votre domaine. Carole Fritz, vous êtes archéologue, spécialiste de l'art préhistorique. Alors on parle toujours de l'art pictural, mais Jeanne a une interrogation.
Et l'interrogation de Jeanne est très intéressante. Alors dire est-ce que les hommes préhistoriques dansaient, ça ne laisse pas de traces archéologiques. Mais nous avons des instruments de musique. Donc, on savait que les hommes préhistoriques faisaient de la musique. Et notamment, on a des flûtes en os d'aigle, donc en fait des os d'oiseaux assez gros. Vous savez qu'un os d'oiseau, en fait, c'est vide à l'intérieur.
Et pour être léger.
Pour être léger, pour voler. Et donc, ils ont chassé, ils ont récupéré, ils ont tué des oiseaux, hein, pour les manger, mais aussi pour récupérer certainement les plumes. Là aussi, on n'en a pas de traces, mais quand on voit bien ce que les Indiens, ce que les hommes d'Amazonie font avec les plumes, je vois pas pourquoi les paléolithiques, donc les hommes préhistoriques entre moins 40 et moins 10 000, n'auraient pas fait ça. Et donc, ils ont récupéré ces grands os, ils les ont coupés à chaque extrémité, ils ont fait des trous, comme les flûtes actuelles, et on en a trouvé des fragments dans une grotte qui s'appelle Isturitz, en Pays Basque, en France, ou dans des sites en Allemagne. Et là, en fait, on sait qu'ils produisaient de la musique, puisqu'en fait, on a des gens qui ont reproduit ces instruments et qui ont fait de la musique avec. Donc, il est difficile de penser, on est chez Homo sapiens sapiens, et puis même tout être, quand on entend de la musique, en tous les cas, moi j'ai envie de danser. Et donc, j'aime à penser que les hommes préhistoriques faisaient de la musique et dansaient.
Alors dites-moi, Carole Fritz, qu'est-ce qui nous prouve que cette flûte trouvée dans la grotte n'a pas été abandonnée par quelqu'un du XIe siècle ?
Alors, ça c'est toute l'archéologie, parce que quand on fait des fouilles, on repère les niveaux archéologiques. C'est-à-dire que ce qui est le plus ancien est le plus profond, ce qui est le plus récent est au-dessus, et on va décaper, c'est-à-dire qu'on va enlever la terre en laissant les objets en place, et on a des méthodes de datation, notamment par le carbone 14, qui est une méthode un peu compliquée, mais qui permet de dater les méthodes organiques. Et puis, quand on peut pas dater dans les périodes très très anciennes, et ben on va regarder la faune sauvage qui est associée, puis on sait que à l'époque médiévale, il n'y avait pas de lions des cavernes, par exemple, ou il n'y avait pas de rennes, donc on sait qu'on est dans des couches du paléolithique supérieur. Mais là, pour ces sites-là...
Pas de rennes dans cette région-là.
Dans cette région-là, voilà. Et on sait, là, pour ces sites-là, en fait, que, bon, on a des datations, on a tout ce qu'il faut, et que ces morceaux de flûte ont bien été faits par les hommes du paléolithique supérieur.
Donc, scientifiquement, il y a la preuve.
Oui.
Évidemment, vous pouvez voir des choses extraordinaires sur lesquelles Carol Fritz a travaillé dans le livre « L'art de la préhistoire » qui est un livre collectif. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicion. Elvis Presley sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Hervé Haribard est physicien et chimiste. Il est professeur à l'ESPCI Paris Tech, directeur scientifique de Saint-Gobain et membre de l'Académie des technologies.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi il y a des numéros au fond des verres. Au revoir.
Allô, je m'appelle David, j'ai 8 ans et j'aimerais bien savoir... Comment ça se fait qu'à partir de verre fondu, on arrive à faire avec une simple machine qui tourne. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, c'est justement ça que je veux savoir. Quand avec du verre fondu, on arrive à refabriquer la bouteille. Enfin, quel est le moule, quoi. Merci de me répondre. Au revoir.
Alors, bonsoir, Chloé et David. Alors, les numéros au fond des verres, ah oui, ça, les enfants jouent beaucoup avec ça. Alors, David, ta question, elle a l'air comme ça un peu compliquée, mais elle l'est pas, en fait. Il vous demande, Hervé Haribar, comment on fabrique des choses en verre.
Oui. Alors, il y a beaucoup de façons différentes de fabriquer des objets en verre, et chaque objet possède son procédé pour la fabriquer. Et pour fabriquer les verres à boire, on procède exactement comme les bouteilles, c'est-à-dire qu'on utilise des moules. Alors, évidemment, ces moules, ils ne peuvent fonctionner que si on est capable d'introduire exactement la bonne quantité de verre à l'intérieur de façon à les former. Et ça, ce sont des procédés qui ont été inventés maintenant, il y a très longtemps, depuis 80 ans environ, et qui eux-mêmes découlent d'ailleurs des procédés artisanaux de fabrication du verre, ce que font les artisans verriers. Donc, on profite dans le cycle de refroidissement du verre liquide, puisque dans un faux verrier, on part de verre qui est extrêmement liquide. Eh bien, on profite d'un moment dans le refroidissement où ce verre devient un peu plus pâteux pour justement le faire pénétrer dans ces moules métalliques. Et de cette façon-là, le verre est capable d'épouser les parois du moule, de prendre les bonnes formes. Et comme ça, on forme évidemment la paroi extérieure du verre. Il reste à former la paroi intérieure. Et pour ça, eh bien, on enfonce dans le premier moule un deuxième moule qui vient donner exactement la forme de l'intérieur de la bouteille ou de l'intérieur du verre. Évidemment, il est plus difficile de former une bouteille parce que les bouteilles ont des goulots et on ne peut pas entrer à l'intérieur quelque chose qui est la forme de la paroi interne de la bouteille. C'est pour ça qu'on a été obligé d'inventer des moules qui s'ouvrent en deux de façon à libérer la bouteille une fois qu'elle a été formée à l'intérieur.
Il y a deux demi-bouteilles en fait.
Il n'y a pas deux demi-bouteilles, mais il y a deux demi-moules.
Ah, oui,
et
oui,
c'est
oui.
Pour ça d'ailleurs qu'on voit toujours sur les bouteilles un petit liseré sur le bord qui court du haut du goulot jusqu'au bas de la bouteille et qui est la marque de cet interstice entre les deux moules.
En fait, pour répondre à David, ce qui est génial, c'est que comme le verre est en pâte, quand vous mettez le verre dans le moule, comme il n'est pas liquide, il ne le remplit pas. Donc il reste un peu pâteux, ça
oui, et ça permet ensuite, avec le deuxième moule, de bien venir écraser contre les deux parois, celle du moule extérieur et celle du moule intérieur.
Et alors Chloé demande pourquoi il y a des numéros au fond des verres.
Eh bien tout simplement parce qu'il y a des numéros au fond des moules qui servent à fabriquer les verres. Et donc ces numéros-là, on les utilise de façon à ce que s'il y a un défaut sur les verres, ce que l'on ne peut observer qu'après la fabrication, on soit capable de déterminer quel moule est responsable.
Merci Hervé Haribar. Cette histoire d'âge au fond des verres dont je parlais tout à l'heure amuse beaucoup les enfants. Delphine Mahé a donc eu l'idée de marquer des trucs utiles sur les verres, mais aussi les assiettes, les bouteilles, les bols, les chaises, etc. Quels sont ces trucs? Eh bien, tout simplement, le nom de l'objet dans une langue étrangère. Elle a mis au point des étiquettes adhésives retirables. On peut acheter des pochettes de 88 ou de 196 mots pour 14 ou 25 euros. Il y a aussi des étiquettes vierges si on veut en rajouter des mots. Dialectiquette est disponible en anglais, en espagnol, en italien, en allemand et en breton. Dame d'amour, ça vient de sortir, c'est une bonne idée. L'idée est amusante, pratique et pendant ce temps, nos chères têtes brunes ne regardent pas d'écran. Moins drôle, mais intéressant, à voir demain soir, lundi 17 mai, à 20h30 sur LCP, la chaîne parlementaire. Les enfants maudits, un documentaire sur la petite Roquette, pénitencier pour enfants, ouvert en 1836. C'était une prison moderne et modèle pour son époque. On y enfermait des gamins qui parfois n'avaient pas fait grand-chose, souvent des petits vols. Le principe était le silence et l'isolement total. Ils n'avaient pas le droit de parler du tout, juste d'écrire. C'était effroyable. Dans les années 60, Yann Bisiou trouve dans un grenier un paquet de lettres déchirantes écrites par les enfants et jamais envoyées car censurées par la direction de la prison. Les enfants maudits ont reçu le prix de la réalisation et le prix du public au festival de Luchon. Podcastez ces petits bateaux et réécoutez-les quand bon vous semble par franceinter.fr. Eliane Girard, Marjorie de Voucoux, Loïc Frapsos et Marie-Claire Matout et Noël Bréham, nous espérons bien vous retrouver dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre, Le masque et la plume de Jérôme Garcin, qui sera ce soir consacré au cinéma.